2 Corinthiens 13, 11, on peut lire au reste, frères. Soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci Seigneur de ce passage des Écritures qui conclut cette lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Merci que c'est ta parole qu'on peut considérer des vérités précieuses et que c'est toi-même qui nous enseignes. On te prie Seigneur que tu nous diriges, que tu formes Christ dans tes enfants et même Seigneur que ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui naissent de nouveau par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Qu'ils voient leurs conditions, qu'ils voient le seul et unique sauveur Jésus-Christ et qu'ils invoquent ton saint nom, ta miséricorde. On te prie, Seigneur, de faire ton œuvre glorieuse au milieu de nous maintenant, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Vous savez, c'est un beau passage trinitaire, le verset 13, hein, que la grâce du Seigneur Jésus, c'est le Fils, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et l'expression ici, communion du Saint-Esprit, je crois que c'est une expression très importante lorsque nous parlons de la victoire que nous avons en Jésus-Christ, car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est celui qui est promis, c'est celui qui vit en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. En fait, j'aimerais avancer même que Dieu, le Saint-Esprit, est le plus grand négligé de la vie chrétienne pour tellement de personnes. Et ce, toutes dénominations confondues. Parce que s'il n'est pas ouvertement négligé dans certains milieux, dans d'autres, il est tellement mis de l'avant, mais pas nécessairement comme Dieu et Seigneur, mais plutôt comme une puissance pour accomplir nos choses pour Dieu. C'est comme, il vient et puis on s'en sert. Alors qu'en réalité, il est traité plus comme un serviteur qui sert nos désirs et non pas comme le Seigneur de nos vies souverain à qui nous devons nous soumettre et rendre compte. Et donc, on entend dans le mois d'octobre le thème de la victoire en Jésus-Christ, Jésus notre victoire. Et c'est vraiment à la lumière de ça que j'aimerais qu'on s'arrête ensemble sur le rôle tellement important du Saint-Esprit dans cette vie chrétienne victorieuse. Mais plus précisément avec notre communion, pour prendre l'expression ici, ou si vous voulez pour le dire autrement, notre relation avec le Saint-Esprit, parce que notre victoire en Jésus-Christ, on l'a par notre partenariat, notre communion avec la personne du Saint-Esprit, le Seigneur, l'Esprit. Et ça, c'est une expression biblique. L'Esprit, c'est le Seigneur, et donc on va considérer ça ensemble, l'Esprit de Christ en nous, ceux qui sont ses enfants. Et vous savez, avec notre texte, mais aussi d'autres textes qu'on va voir dans notre message de ce matin et même dans les prochains messages, on voit que c'est une réalité individuelle. L'Esprit dans ma vie individuelle, mais aussi c'est relationnel. Quand on lit, par exemple, dans Philippiens chapitre 2, si donc s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, dans nos relations interpersonnelles, le Saint-Esprit a prééminence aussi. C'est très important qu'on marche par l'Esprit, que le fruit de l'Esprit soit au centre de nos relations interpersonnelles. En fait, si on continue le même passage dans Philippiens, ça dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Est-ce que ça serait, pensez-vous, tout par nous-mêmes, puisqu'il est dans ma chair, ou ça origine en Dieu? La réponse, poser la question, c'est d'y répondre. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et Jésus dépendait constamment de l'Esprit du Père. Et donc, ça peut être une façon de le voir, mais aussi on peut le voir, on sait dans 2 Pierre, ça dit que tous dans nos rapport mutuel, on doit se revêtir d'humilité. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit entre nous, au milieu de nous. Et vous savez, dans des messages, là, pas si longtemps, là, à travers l'année, j'ai abordé la question de la sanctification. On peut dire, si on parle de victoire, c'est quoi la victoire? Mais c'est notre sanctification, c'est comment on grandit dans la connaissance et dans la grâce de Dieu. On a vu sous l'angle, dans le psaume 103, de notre soif de Dieu, hein? Grandir à travers notre soif de Dieu. On l'a vu dans le psaume 27 avec notre désir pour la présence de Dieu. Bien, un peu de la même manière, je veux me pencher sur la question de notre victoire en Jésus-Christ par rapport, sous l'angle, de notre relation filiale, d'amitié avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est votre ami, compagnon? Est-ce que vous avez une relation avec le Saint-Esprit? Écoutez ici, j'ai pris ami parce que, écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 15. « Vous êtes mes amis. » Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. S'il est vrai que le maître, Jésus-Christ, dans son incarnation, appelait les disciples amis, n'est-ce pas vrai pour l'Esprit qu'il a envoyé, qui habite en nous et qui nous conduit dans toute la vérité? Alors, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. Christ, notre victoire par un partenariat personnel avec le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on regarde ça avec trois composantes de notre relation avec le Saint-Esprit. Trois composantes de notre relation avec le Saint-Esprit. D'abord, la première composante, et c'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps dans notre message. C'est un message où est-ce que le premier point est le plus développé, puis les deux autres sont beaucoup plus courts. Mais on a besoin d'avoir une communication ouverte. Communication ouverte. Vous savez que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une communication entre l'enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et vous savez que je suis un ardent défenseur, un adepte de la clarté dans les communications. Ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous savez que c'est quelque chose que je dis, la clarté dans les communications. Des fois, c'est mieux de se dire les affaires, même si c'est pas trop le fun à se dire, mais de se dire que de faire semblant que tout est beau, puis d'être hypocrite. Et si je l'ai souvent réitéré dans les relations humaines, à combien plus forte raison, n'est-ce pas, essentielle, fondamentale dans notre relation avec Dieu, d'avoir une communication ouverte avec Dieu lui-même? Pourquoi? Parce que la communication est essentielle à toute relation saine. Mais il y a plus que... Il y a beaucoup souvent de confusion en ce qui a trait à la communication avec le Saint-Esprit. Par exemple, est-ce que le Saint-Esprit nous communique? Ben là, on vient de dire, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça, la réponse, on l'a ici. Est-ce que c'est à sens unique? Est-ce que nous, on peut lui parler? Autrement dit, est-ce qu'on peut prier le Saint-Esprit? Je pose la question, puis on va prendre le temps de considérer la réponse dans la parole de Dieu. Je vais vous répondre avec deux facettes, la réponse implicite et les réponses explicites dans la parole de Dieu. Mais d'abord, le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une puissance impersonnelle. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il interagit avec ses enfants, il ressent. Hein? Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, se sont entendus ensemble pour parler contre lui, pour agir contre ce que lui voulait, lui, la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé. Et donc, c'est une personne. En partant, déjà, ça nous montre qu'on ne le traite pas juste comme une chose, une puissance. Et s'il est une personne qui habite en nous, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu, mais là, je vais vous le lire pour être sûr de ne pas me tromper quand je le cite, ne savez-vous pas que vous êtes... Que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, s'il habite en nous, n'est-ce pas normal d'y parler? Et la présence de quelqu'un donne automatiquement le privilège de la conversation. Pas besoin de permission pour parler à quelqu'un qui, dans laquelle la présence... Si on est en présence de quelqu'un... En fait, si c'est une personne, si c'est pas une force impersonnelle, ça serait pas mal bizarre de pas y parler. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un. En fait, Jean-François nous disait ça. Là. Il y a été un repas où est-ce que c'était silencieux, personne parlait. Ben c'était bizarre. Parce que c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait autour d'un repas? On parle. C'est normal, être dans la présence de quelqu'un, d'une personne, ben ça veut dire qu'on va parler de vous. On est peut-être plus mal à l'aise, des fois on connaît peut-être moins la personne pour en apprendre à connaître. Des fois c'est un vieil ami que fait 10 ans qu'on s'est pas vu puis qu'on recommence comme la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a différents contextes, mais une personne dans notre présence, ça veut dire qu'il va avoir une communication. Imaginez-vous, quelle sorte de mariage nous aurions si il n'y avait pas de communication. Parce qu'il ne peut pas avoir de bonne relation où lorsque, pour que la relation soit bonne, il faut que les partenaires développent des liens, une intimité relationnelle avec une communication dans les deux sens. Et les femmes disent...
Amen.
Hey, je m'attendais à plus que ça, mais il y en a une! Bon, il y avait... Qu'est-ce que ça veut dire sur Sylvain? Ah! Hey, là, on va pas sortir ça. Non, mais, OK, là, je viens de vous donner en gros, là, puis c'est pas nécessairement exhaustif, mais je viens de vous donner les raisons implicites, OK, qu'on peut avoir de par la déduction logique des choses, du fait que Dieu, le Saint-Esprit, est une personne. Donc, les raisons implicites sont claires. On doit avoir une communication ouverte avec le Saint-Esprit en l'écoutant, en lui parlant et même en l'adorant. Mais est-ce qu'il y a des passages bibliques explicites pour soutenir ça? Ben là, c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble. Puis encore là, je ne veux pas nécessairement être exhaustif à regarder tous les passages de toute la parole de Dieu, mais je pense que ça va être assez clair pour qu'on puisse répondre oui à cette question. D'abord, vous savez, on a lu Jean chapitre 14, puis on pourrait dire Jean chapitre 14, 15 et 16, spécialement 14 et 16, c'est le plus long exposé sur le Saint-Esprit dans la parole de Dieu et par le Seigneur lui-même. Si vous voulez un commentaire biblique sur le Saint-Esprit, sa personne, son rôle, c'est Jésus lui-même qui l'a donné dans Jean 14 et 16 beaucoup, mais même dans l'ensemble du discours de la chambre haute. Et dans Jean 14, je vous cite, on l'a lu tantôt, mais je vous rappelle ce qu'on a lu. Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. » Ici, Jésus parle d'un autre consolateur. Je vous l'ai dit tantôt, le mot pour « autre ». Dans la langue originale dans laquelle c'est écrit, il y a deux mots pour « autre ». Il y en a un qui veut dire un autre de la même nature, puis l'autre qui veut dire un autre qui est complètement différent. Quand on dit des couleurs qui sont hétéroclites, hétéro, vous connaissez l'expression hétéro, ça veut dire un autre, pas pareil, pas de la même nature. L'autre mot, « alors », ça veut dire un autre, mais de la même nature. Jésus, quand il parle d'un autre consolateur, il ne dit pas un autre complètement différent. Il prend l'expression, le mot pour un autre de la même nature. C'est-à-dire nature divine, une personne, Jésus est Dieu fait homme, l'Esprit de Dieu est Dieu qui vient à l'homme comme ça, suite à la promesse qu'il allait être envoyé du Père. Donc, un autre consolateur, et ça c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire, ok? Ça, c'est Colossiens 1:27 qui nous le dit. Aussi, dans le verset 18, Jésus, regardez ce qu'il dit. Il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Puis on apprend aussi que le Père, dans ce passage-là, quand on le regarde comme faut, on voit que toute la Trinité est impliquée dans cette présence personnelle après la crucifixion, la résurrection, l'ascension, la coronation que... Dieu vient faire sa demeure dans les croyants en la personne du Saint-Esprit, le Dieu trinitaire. Évidemment, pour ça je vous dis, il y a une part de mystère de tout comprendre ça, mais clairement, ce n'est pas juste une puissance, une chose, c'est la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Maintenant, une autre chose qu'on peut voir, bon, avec tout Jean 14, mais si les disciples ont interagi avec Jésus comme étant une personne, vous savez, Jésus, il ne le traitait pas comme un fantôme, ou, okay? Il le traitait comme il était, Dieu fait homme, ben, n'est-ce pas normal de faire la même chose avec celui qui est un consolateur de la même nature, un autre consolateur de la même nature? Et donc, ce n'est pas simplement et seulement une question de prière. « Ah, j'ai-tu le droit de prier le Saint-Esprit? » La question, est-ce que j'interagis avec lui? Tu sais, je peux-tu y parler? Est-ce que je peux lui demander des choses? Est-ce que, ok? Tu sais, puis pensons au relationnel. Dans un mariage, est-ce qu'on se parle juste quand on a des affaires à se demander? Ou il y a des affaires, bon, peut-être quand il y a des rénaux à faire, c'est peut-être juste, ou besoin d'argent, je sais pas trop, là. Hey, je vais me mettre dans le trouble avec les coupes à matin, là. Ne prenez pas mes paroles pour vous en servir comme une arme, ok? Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas gentil. Non, mais c'est ça, dans un couple, on ne fait pas juste parler pour se demander des affaires. On parle, on interagit, OK? Mais c'est la même chose avec Dieu dans notre vie. On parle, on interagit. C'est pas, ah, j'ai-tu le droit de prier? J'ai le droit de parler au Saint-Esprit? Puis des fois, ça peut arriver que j'y demande des affaires, comprenez-vous? C'est le domaine global de l'interaction ici dont il est question. Hein? Puis là, même, on peut aller plus loin. Dans Ézéchiel, on apprend que Dieu dit... à Ézéchiel, il me dit, alors Dieu dit à Ézéchiel, « Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, parle, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. » Donc, on voit ici que c'est un commandement de Dieu qui dit ici de parler directement à l'Esprit. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur les morts et qu'il revient. » Puis, on apprend que cet esprit-là, c'est bien l'esprit de Dieu, parce qu'au verset 14, ça dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Ça, c'est un autre exemple de passage de la parole de Dieu. Mais là, peut-être quelqu'un peut dire, « Oui, mais est-ce qu'on n'est pas enseigné de prier notre Père? » Oui, notre Père, c'est la prière modèle. Mais le Notre Père, ce n'est pas une interdiction de s'adresser aux autres personnes, aux deux autres personnes de la Trinité. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez été sauvé, à qui vous avez demandé de vous sauver? À Jésus.
Notre Père.
Ah, c'est pas le temps, par exemple! Si, maintenant, si on prend, si, mettons, on prenait, là, strictement, la question du Notre Père à dire que je ne peux pas parler à d'autres personnes de la Trinité, ben là, dans le fond, je pourrais tomber un peu dans la formule catholique de juste avoir une prière pour la forme, mais qui n'a pas le fond. Dans le fond, on parle à Dieu. C'est pas comme, ah, il faut que je le dise comme ça, OK? Dieu est relationnel. Dieu veut qu'on lui ouvre notre cœur, qu'on se confie en lui, qu'on cherche sa face, OK? Il y a tellement... Puis on voit dans la Bible des gens qui ont prié directement à Jésus. Okay, dans les évangiles, on apprend de cet homme qui a crié au Seigneur Jésus, « Seigneur, sauve-moi » en parlant à Jésus-Christ dans Matthieu 14, 30. Aussi, dans Luc 7, 4, ça dit, « Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. » Donc, il a prié, il lui a demandé, prier, ça veut dire demander. Donc, il y a des prières qui ont été adressées au Seigneur Jésus directement dans le livre des Actes. Tantôt, notre frère parlait de ça quand j'ai fait mon petit quiz. Quel est le plus grand traité dans la Bible sur le Saint-Esprit? Effectivement, les Actes parlent énormément du Saint-Esprit. Il y a certains même commentateurs ont appelé le livre des Actes les Actes du Saint-Esprit au lieu des Actes des apôtres. Pourquoi? Parce qu'on voit vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre. Bien, dans le livre des Actes, il y a, c'est répertorié qu'il y a 13 prières, qui sont adressées au Seigneur. Et dans le contexte, des fois, ça peut référer au Seigneur Jésus, mais à plusieurs reprises, c'est clair qu'il est question du Saint-Esprit. Donc, il priait au Saint-Esprit. Maintenant, un autre exemple. Connaissez-vous 2 Thessaloniciens 3:5? Je vous lis puis je vous explique quelque chose. « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » C'est qui, Seigneur, dans ce verset-là? C'est le Saint-Esprit. « Que le Seigneur... » dirige vos... Puis là, parce que ça parle du Seigneur, puis là, ça parle de la personne de Dieu, puis la personne du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Donc, c'est une prière au Saint-Esprit que le Seigneur, le Saint-Esprit, dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'amour de... vers la patience de Christ. Je continue, puis là, vous allez voir, c'est très intéressant lorsqu'on considère, c'est quoi la prière que Jésus... Une des prières très importantes que Jésus a données à ses apôtres, c'est prier le maître de la moisson. Prier le maître de la moisson. C'est qui le maître de la moisson? Moi, j'ai tout le temps pensé, ben, c'est le Père, le maître de la moisson. OK? Considérons la réponse à la lumière du livre des Actes. Dans le livre des Actes, n'est-ce pas le Saint-Esprit qui dirige, qui agit comme le maître lorsque il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char, la moisson du serviteur éthiopien qui a fait rentrer l'Évangile en Afrique. C'est le maître qui a donné l'ordre. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. On continue dans le livre des Actes, au chapitre 10. Ce même maître commande à Pierre d'aller vers Corneille. Je vous lis, ça dit, « Et comme Pierre réfléchissait à la vision de la nappe qu'il avait eue, l'Esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars vers eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » C'est le Saint-Esprit qui parle. Acte 13. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Selon moi, il agit pas mal comme un maître, n'est-ce pas? Acte 16 même, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie, arrivé près d'Amicie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » OK, donc c'est clair ici que c'est qui le maître de la moisson, selon le livre des Actes? Le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. Et c'est aussi clair que le commandement de prier le maître de la moisson. Ce maître-là, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Mais là, ici, je vais amener quelque chose. Je vais juste amener un point pour défaire un peu la tension des fois qu'on a avec le Saint-Esprit, de dire, ben là, je ne peux pas y parler. Puis, il y a des cantiques qui parlent de donner l'honneur, l'adoration au Saint-Esprit. Hey, c'est-tu pas correct de faire ça? OK. Je veux juste vous dire qu'il y a un précédent dans la Bible pour ça. Puis bien sûr, ça ne diminue en rien le rôle du Père, puis du Fils. Puis comme exemple, le fameux Notre Père, mais aussi, on peut certainement, puis souvent, parler à notre Père Céleste, qui nous a engendrés. Puis d'ailleurs, c'est ce que l'Esprit lui-même aussi va nous encourager à faire, parce qu'on lit dans Romains 8, 15, que c'est l'Esprit en dedans de nous, c'est l'Esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je veux dire, il n'y a pas de contradiction dans la Trinité, là, OK? C'est juste qu'on va essayer de comprendre, puis peut-être enlever des mauvaises compréhensions qu'on peut avoir des fois avec la personne du Saint-Esprit. Puis évidemment, le Fils, la Bible nous dit que l'Esprit veut lui donner la prééminence. On apprend que le Fils, il a prééminence dans Colossiens 1:18, mais aussi dans Jean 15, 26, quand sera venu le Consolateur, ça c'est le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, la question, c'est pas tant la question, OK, je peux-tu prier, parler, c'est plutôt une question de communication. Communication ouverte. C'est correct de parler au Seigneur, le Saint-Esprit. C'est une personne, il doit être traité comme tel, en toutes choses. C'est ça la base de notre victoire dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un partenariat personnel. Si on le traite comme un étranger, si on le traite avec timidité, puis on va voir ça dans un instant, ça va aussi paraître dans notre marche chrétienne, dans notre route, dans la victoire en Jésus-Christ, pas vers, parce que Christ l'a acquis, mais dans cette victoire, certainement que le Saint-Esprit, notre relation avec lui est tellement, tellement importante pour marcher dans cette victoire. Ça mène au deuxième élément, puis on est vraiment vers la fin du message, je vous disais que c'est plus long le premier point, mais le deuxième, c'est simplement, le deuxième élément de notre relation avec le Saint-Esprit, c'est l'expression de notre appréciation envers lui. Connaissez-vous Colossiens 3:15? « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » On est appelé à former un seul corps. La paix de Christ règne dans nos cœurs. Comment? Par le Saint-Esprit. C'est l'unité de l'Esprit. C'est pas l'unité que nous on crée. Vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit. Fait que si on forme un corps, c'est pas nous qui se sommes formés nous-mêmes. C'est pas nous qui sommes l'initiateur. C'est l'unité de l'Esprit. On est appelé à le conserver. Et la paix de Dieu qui règne dans nos cœurs, c'est par le Saint-Esprit. Christ, quand on l'a lu tantôt, il nous donne sa paix. Il nous la donne comment? Par son Esprit. Qui est en nous, entre nous, au milieu de nous. Et lorsque quelqu'un nous fait du bien, ça arrive des fois, quelqu'un, il nous bénit, il nous fait du bien, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ben, combien est-ce qu'on est coupable souvent de manquer de reconnaissance envers l'esprit qui habite en nous? Vous savez, lorsqu'on a une bonne relation avec quelqu'un, il va avoir de la reconnaissance, il va avoir un sentiment de merci dans notre vie. Puis d'ailleurs, à ce sujet-là, des fois, on se dit, « Ah, c'est merveilleux, j'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu. » N'est-ce pas qu'on prend la gloire? Parce que c'est qui nous dirige dans toute la vérité? C'est le Saint-Esprit. Puis c'est qui illumine les yeux de notre cœur? C'est le Saint-Esprit. Fait qu'on va se dire, « Ah, j'ai découvert quelque chose. Merci, Seigneur. Tu m'as montré quelque chose, une perle de ta parole. » Et lorsque notre relation avec le Saint-Esprit est vraie et tangible, il va y avoir de la reconnaissance. Comme, écoutez bien dans Actes, j'aime bien Actes 15, 28, ça dit, « Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » On voit qu'il y avait une relation. Il parut bon au Saint-Esprit puis à nous. Voyez-vous, c'est comme, il y avait une communication, une communion ici avec le Concile de Jérusalem, les dirigeants de l'Église et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, avait une affinité, une proximité, une relation mutuelle d'appréciation. Est-ce que c'est ce qui caractérise ta relation avec la personne de Dieu le Saint-Esprit? Ça m'amène au troisième élément de notre relation avec le Saint-Esprit. Non seulement il y a la communication ouverte, non seulement il y a l'expression d'appréciation, mais il y a un dévouement loyal. Écoutez ce que ça dit dans Hébreux chapitre 13, les versets 5 et 6. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » C'est qui le Seigneur qui est comme ça auprès de nous, toujours, jusqu'à la fin du monde? L'Esprit de Jésus avec nous. Le Saint-Esprit est certainement loyal et dévoué envers nous parce qu'il est la personne de la Trinité qui est là avec nous, en nous, constamment, toujours. Et vous savez, comme pour le salut, on dit, le salut, c'est pas une religion, c'est une relation avec le Seigneur Jésus. Bien, de la même façon, la vie abondante, la plénitude de l'Esprit, c'est pas une religion, c'est une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui rend notre marche avec le Seigneur personnelle et réelle. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis, contrôlés, dirigés par l'Esprit. Et lorsque je suis comme ça, dans une relation saine avec mon Seigneur, ben, je vais me dévouer à lui. Puis c'est lui, le Saint-Esprit, qui fait que ses commandements ne sont pas pénibles. Je dirais que il y a un malaise des fois lorsqu'on parle de la personne et de notre relation avec le Saint-Esprit parce qu'on dit « Ouais, mais il ne faut pas enlever la gloire à Dieu, à Jésus-Christ. » Non, c'est constamment ce que le Saint-Esprit nous amène à faire. Il ne va pas voler, puis il va pas. C'est pas un ennemi. Comme je vous dis, il n'y a pas de contradiction dans la Trinité. Mais des fois, en tant que chrétien, on a un malaise. C'est comme si, le Saint-Esprit, on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait que je pose simplement cette question-là en terminant ce matin. C'est quoi ta relation avec Dieu, le Saint-Esprit? C'est pas une chose, c'est pas une puissance impersonnelle, c'est une personne. C'est Dieu lui-même, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que ta relation est vécue comme avec une force que tu demandes de venir t'aider comme ça, ou comme une personne qui habite en toi, qui t'anime, qui te console, qui te ramène, qui fait ce qu'une personne fait lorsqu'elle est un consolateur. Et c'est ce que ça que la grande bénédiction d'avoir l'Esprit de Dieu en nous lorsqu'on est un enfant de Dieu. Et vous savez, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ce même Esprit est celui qui vous amène à regarder à la croix de Christ. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc de votre péché, qui fait que Christ a fallu qu'il aille sur la croix. Parce qu'il y a une conséquence au péché, et il fallait qu'il y ait un paiement pour le péché qui règne dans le monde depuis la chute. Et le Saint-Esprit nous convainc de notre péché, de la justice de Christ, que lorsque Christ est mort sur la croix, c'est le sacrifice parfait que personne ne pouvait faire, que c'est la seule façon par laquelle on peut être réconcilié avec Dieu, c'est par la croix de Christ. Et ce même esprit va nous dire, si vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur, parce qu'un jour il va être trop tard. Il nous convainc de jugement, il nous convainc qu'un jour on va faire face à ce Dieu trois fois saint. Est-ce qu'on va y faire face seul, par nous-mêmes, ou est-ce qu'on va pouvoir se tenir dans la justice acquise à la croix, la justice du Fils de Dieu lui-même? Pas qu'on a gagné de la faveur de Dieu, mais dans laquelle on s'est confié. C'est pas par nos mérites, c'est par ceux de Christ. Où est ta confiance? Si tu as à te tenir devant Dieu maintenant, où est ta confiance? Dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans une religion, ou dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ? C'est ce que le Saint-Esprit te convainc en ce moment. Si ça cogne, si ça travaille, c'est l'Esprit qui dit, t'entends ma voix, endurcis pas ton cœur. Réponds à l'appel de la croix. Puis enfant de Dieu qui est ici, est-ce que tu dois confesser que tu as traité celui qui est venu habiter en toi depuis que tu es sauvé? Non pas comme une personne, mais comme une force ou quelqu'un qui t'aide extérieurement. Est-ce que tu l'as traité comme le Seigneur qu'il est? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous savez que la réponse à la question que je viens de poser, l'Esprit nous dirige de plus en plus dans la liberté. La liberté de, au lieu d'être écrasé par nos circonstances, de voir au-delà. La liberté de lorsqu'on est blessé par les autres, de la liberté de pardonner. La liberté de lorsque c'est dur d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, la liberté d'être capable de l'aimer pareil. C'est le Saint-Esprit qui fait ça dans la vie des enfants de Dieu. Donc la réponse, vous l'avez en regardant votre vie. Donc mon appel, c'est simplement allons à Dieu maintenant pour nous humilier, nous confier en lui, afin qu'il fasse en nous et parmi nous, infiniment au-delà même de tout ce qu'on demande et qu'on pense, afin qu'à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur qu'on a considéré ta parole. Ta parole qui est la révélation de qui tu es. Et tu es le Dieu trinitaire. C'est un grand mystère, un seul Dieu en trois personnes. Et on voit beaucoup, l'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. On voit beaucoup la personne du Père. Les Évangiles nous présentent la personne du Fils. Mais en ce moment, nous sommes dans la dispensation où est-ce que, avec l'Église et l'Esprit qui habite l'Église, le corps de Christ, la personne, comme on le voit dans le livre des Actes, de Dieu, le Saint-Esprit. Seigneur, qu'on ait une relation saine, communication ouverte, de la gratitude, un dévouement envers notre Seigneur, le maître de la moisson. La vérité, c'est que souvent, on s'endurcit, on s'habitue à dire non. On s'habitue à fermer l'oreille lorsque tu t'adresses à nous. Et on va le voir dans les prochains messages, tu ne parles jamais en dehors du barème de ta parole, c'est toujours selon ta parole que tu as inspiré. Ah, mais Seigneur, que ton peuple ici rassemblé ne soit pas indifférent et ne soit pas endurci face à la seigneurie de notre partenaire personnel pour la victoire qui est en Jésus-Christ. Seigneur, on s'en remet à toi que tu puisses accomplir tes desseins dans la vie de chacun ici. Merci que tu es le consolateur, que tu es celui qui nous rencontre là où on est. Sois glorifié au milieu de nous autres. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.